J'ai une très bonne question pour vous. Pourquoi est-ce que Dieu permet que les méchants prospèrent? Les Saintes Écritures vont donner une réponse claire et rassurante aux nombreuses personnes qui veulent le savoir. Aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible.
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir via Internet à www.radioespoir.ca ou par téléphone, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je crois qu'on va voir aujourd'hui qu'on n'a pas à envier les méchants qui prospèrent, puisque Dieu est juste et que tôt ou tard, il fait justice. Voici donc les questions qu'on va lui poser. Qu'est-ce qui se produit après une conversion réelle? Pourquoi Dieu permet-il que les méchants prospèrent? Pourquoi est-ce qu'on ne doit pas envier les méchants qui prospèrent? Qu'est-ce qu'un croyant doit faire quand il est affligé? Est-ce que Dieu peut nous délivrer de n'importe quelle situation pénible? Pouvons-nous savoir quand le Seigneur Jésus reviendra? Pouvons-nous croire que nous sommes Dieu, comme certaines personnes l'affirment de nos jours? Restez avec nous, le pasteur Régent Joly a ouvert sa Bible et c'est dans ce grand livre merveilleux que se trouvent les réponses à toutes nos questions. Mais avant de les entendre, demandons à Dieu qu'il dispose nos cœurs à saisir le sens de sa parole. Prions. Ô Seigneur, on a besoin de prier, on a besoin de venir à toi, c'est tellement bon de te parler, de savoir que tu nous écoutes, que tu veux répondre à nos prières. On vient ensemble te demander de disposer nos cœurs aujourd'hui pour que ta parole fasse vraiment effet en nous et que ça porte du fruit pour ta gloire. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Chers amis, aujourd'hui, avec le psaume 73, nous débutons la partie du livre des psaumes qui correspond au livre du Lévitique. Nous avions dit que le livre des psaumes se divisait en 5 parties, chacune d'elles correspondant à un livre du Pentateuque. La partie de la Genèse comprend les 31 premiers psaumes. La partie Exode couvre les psaumes 32 à 72. Et la partie Lévitique s'arrête au psaume 89. Cette section s'arrête beaucoup sur le sanctuaire. Elle traitera de la sainteté de Dieu et des sacrifices. Chers amis, débutons la lecture de notre psaume 73, verset 1er. Psaume d'Asaph. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Une véritable conversion est suivie d'une croissance spirituelle. Immédiatement, le psalmiste souligne le fait que Dieu est bon pour Israël. Est-il bon pour tous les Israélites? La réponse est non. Les récipiendaires de sa bonté sont les Israélites qui ont le cœur pur. Dans le Nouveau Testament, nous lisons « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu ». Matthieu chapitre 5, verset 6. Qui étaient ces Israélites? Ceux qui venaient au tabernacle apporter des sacrifices, ceux qui désiraient servir Dieu et marcher avec lui. Mes amis, si vous êtes sauvés, vous désirez marcher avec Dieu et avoir une relation intime avec lui. Vous rechercherez la sainteté. Vous désirez aussi avoir un cœur pur. Vous ne pouvez pas venir à Jésus-Christ, le recevoir comme sauveur et persévérer dans votre ancienne façon de vivre. Une véritable conversion est suivie d'une croissance spirituelle et d'une sanctification progressive. Lorsque nous venons à Jésus-Christ, nous recevons le pardon de nos péchés et son sang nous purifie. Mais nous sommes aussi lavés par la parole de Dieu, qui nous sanctifie afin que nous marchions d'une manière agréable à Dieu. Notre marche quotidienne doit être lavée par la parole de Dieu, sanctifiée par la parole de Dieu. Pourquoi Dieu permet-il que le méchant prospère? Bonne question, n'est-ce pas? Maintenant, Asaph, qui pouvait dire que Dieu est bon pour Israël, avait un problème. Il se posait une question que plusieurs d'entre nous se sont posées, et se la pose peut-être encore. Pourquoi Dieu permet-il que le méchant prospère? Comment se fait-il que les enfants de Dieu souffrent plus que les autres? Nous comprenons difficilement pourquoi les méchants sont prospères alors que le peuple de Dieu souffre. Poursuivons notre lecture. Le psaume 73, versets 2 et 3. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. Asaph regardait autour de lui, et il voyait que les méchants prospéraient, alors que ce n'était pas le cas de ceux qui étaient fidèles à Dieu. Versets 4 à 6. Rien ne les tourmente jusqu'à leur mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont point frappés comme le reste des hommes. Aussi, l'orgueil leur sert de collier. La violence est le vêtement qui les enveloppe. Les méchants qui prospèrent sont généralement enflés d'orgueil et arrogants. Ils se vantent de leur réussite et les attribuent à leur sagesse et leur habileté. Souvent, ils ont obtenu leur richesse au moyen de la violence et de procédés illégaux. Verset 7. L'iniquité sort de leurs entrailles, les pensées de leur cœur se font jour. Ce qu'ils sont vraiment devient évident aux yeux de tous. Ils recherchent la gloire, la richesse et la puissance. Tous les moyens sont bons pour l'obtenir et pour protéger leur acquis. Verset 8. Ils raillent et parlent méchamment d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils n'hésitent pas à opprimer les pauvres et le peuple. Ils se pensent supérieurs et ils nous le font sentir. Ils font travailler les ouvriers à des heures interminables et ils donnent des salaires de crève-faim. Ces gens se pensent tout-puissants et au-dessus des lois. Verset 9. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Avec nos médias modernes, il est encore plus facile pour eux de faire promener leur langue sur toute la terre. Lorsque vous écoutez certaines entrevues, vous percevez beaucoup d'orgueil et d'arrogance. Verset 10. Voilà pourquoi son peuple se tourne de leur côté. Il avale l'eau abondamment. Asaph n'était pas le seul à se poser ces questions. Le reste du peuple en faisait autant, alors qu'il devait boire la coupe de l'affliction. Verset 11. Et il dit, « Comment Dieu saurait-il? Comment le Très-Haut connaîtrait-il? » Les méchants ne sont pas intéressés aux choses spirituelles. Ils pensent qu'ils peuvent tout faire, que cela ne dérangera pas Dieu, qui ne se soucie de rien. Autrement dit, ils se font un Dieu à leur image. Verset 12. Ainsi sont les méchants. Toujours heureux, ils accroissent leur richesse. Chers amis, cela ne vous dérange-t-il pas? Cela me dérange. C'est révoltant de voir des criminels notoires vivre dans des propriétés superbes, se défendre avec des firmes d'avocats et se protéger avec les droits de la personne. Poursuivons notre lecture, verset 13. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur et que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. À un moment donné de notre vie, nous nous demandons tous pourquoi nous servons Dieu. Cette tentation est imprégnée d'athéisme. Il faut lui résister, chers amis, et ne pas oublier que Dieu est juste et qu'il rendra justice à tous. Versets 14 et 16. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Si je disais, je veux parler comme eux, voici, je trahirais la race de tes enfants. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ce problème troubla Asaph énormément, au point qu'il n'en dormait pas la nuit. Pourquoi est-ce que les méchants prospèrent? Voilà la question. Verset 17. Jusqu'à ce que j'ai pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'ai pris garde au sort final des méchants. Lorsque nous voyons la fin des méchants, nous ne les envions plus. Lorsqu'Asaph se rendit au temple, il comprit quelle était la fin des méchants. C'est pour cette raison que le Seigneur Jésus nous a raconté la parabole de l'homme riche et de Lazare. Elle illustre ce qui se passe dans l'éternité. vous trouverez cette parabole dans l'Évangile selon Luc, chapitre 16, les versets 19 à 31. Le riche doit maintenant subir des tourments éternels, même si certains affirment qu'ils vont au ciel le jour de leurs funérailles, un jour où l'on mentionne beaucoup de bien au sujet de la personne. On se rappelle toutes ses qualités, mais malgré cela, il souffre éternellement. C'est ce que les textes sacrés nous disent. Tandis que le pauvre Lazare n'a pas eu de funérailles, son corps fut jeté dans une fosse commune. Mais Dieu a envoyé ses anges pour porter son cercueil, et ils l'ont conduit directement au sein d'Abraham. Mes amis, vous devez demeurer près de Dieu, sinon vous allez devenir amer et cynique devant l'injustice qu'il y a dans ce monde. Asaph a trouvé ses réponses en allant au sanctuaire de Dieu. Seul le Créateur a toutes les réponses, mais il n'a pas promis de nous les donner toutes immédiatement. Il faut lui faire confiance. Un jour, lorsque nous serons en sa présence, nous comprendrons le pourquoi de toutes ces choses. Même si je ne comprends pas les raisons de mes souffrances présentement, je verrai que Dieu a fait ce qui était le mieux. Verset 23. « Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. » Dieu prend notre main et nous garde avec lui lorsque nous traversons les afflictions. Verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Dans l'affliction, faisons confiance à Dieu. Oui, malgré mes souffrances, je marche encore avec Dieu aujourd'hui. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Citation de Philippiens, chapitre 1, verset 6. C'est aussi le message de ce psaume. « Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. » Je ne peux demander mieux, vous? Qu'importe ce qui m'arrive, que je comprenne ou non, je vais lui faire confiance. Donc, je poursuis ma route avec lui. Maintenant, au psaume 74, l'action se déroule encore au temple, mais cette fois-ci, il est profané. C'est un psaume didactique d'Asaph. Chers amis, débutons notre lecture. Le psaume 74, verset 1er. Cantique d'Asaph. Pourquoi, ô Dieu, rejettes-tu pour toujours? Pourquoi atterris-tu contre le troupeau de ton pâturage? Le psalmiste demande à Dieu pourquoi il est irrité contre son peuple. Verset 2. Souviens-toi de ton peuple que tu as acquis autrefois, que tu as racheté comme la tribu de ton héritage. Souviens-toi de la montagne de Sion, où tu faisais ta résidence. De toute évidence, le psalmiste parle de la nation d'Israël et de la terre promise. Verset 3. Portez pas vers ces lieux, constamment dévastés. L'ennemi a tout ravagé dans le sanctuaire. Notez que l'ennemi a dévasté le sanctuaire. Verset 4. Tes adversaires ont rugi au milieu de ton temple. Ils ont établi pour signe leur signe. Ce psaume est prophétique, et cela ne peut faire aucun doute qu'il est écrit par Asaph, qui était contemporain de David. Alors, l'accomplissement de cette prophétie pourrait avoir eu lieu lorsque les Chaldéens détruisirent Jérusalem. Par contre, un autre Asaph de la famille de musiciens aurait pu composer le psaume 74. Alors, la prophétie aurait pu aussi s'accomplir lorsque Antioche Épiphane profana le temple en 175 avant Jésus-Christ. Cet homme était un des quatre généraux d'Alexandre le Grand qui se sont partagés son empire après sa mort. J. Vernon McGee, le prédicateur dont nous adaptons les textes, penche pour cette possibilité. À cela, il ajoute la destruction du temple par les Romains en l'an 70 après Jésus-Christ. Il voit aussi un autre accomplissement de la prophétie lorsque le temple, qui aura été reconstruit, sera détruit pendant la grande tribulation. Malgré la persécution et le découragement, un reste fidèle à Dieu dira. Verset 12. Dieu est mon roi dès les temps anciens, lui qui opère des délivrances au milieu de la terre. Maintenant écoutez cette prière. Verset 18. Souviens-toi que l'ennemi outrage l'Éternel et qu'un peuple insensé méprise ton nom. Le reste fidèle à Dieu crie à celui-ci. L'ennemi nous a vaincus et plusieurs personnes de notre nation furent insensées. Elles ne sont pas revenues vers toi. Verset 19. Ne livre pas aux bêtes l'âme de ta tourterelle. N'oublie pas toujours la vie de tes malheureux. Dieu peut nous délivrer de n'importe quelle situation pénible. Le psalmiste implore Dieu. Ô Dieu, sauve-nous de notre affliction. Il s'attend à ce que Dieu libère son peuple. Qu'importe combien graves sont vos difficultés, mes amis, Dieu vous libérera. Il l'a promis. Il a libéré les siens de situations pires que les nôtres, et il délivrera son peuple de circonstances encore plus graves dans l'avenir. Verset 22. Lève-toi, ô Dieu, défends ta cause, souviens-toi des outrages que te fait chaque jour l'insensé. Cette prière fait appel à Dieu pour libérer son peuple, et Asaph reconnaît que Dieu est capable de le faire. Ce psaume didactique d'Asaph nous enseigne que nous pouvons faire confiance à Dieu lorsque nous sommes en difficulté. Le psaume 73 est une prière d'Asaph, et le psaume 75 est un chant de victoire. C'est un psaume imprégné de foi. Débutons la lecture du psaume 75, versets 1 et 2. Ô chef des chantres, ne détruis pas. Psaume d'Asaph, cantique. Nous te louons, ô Dieu, nous te louons. Ton nom est dans nos bouches, nous publions tes merveilles. Ultimement, Dieu glorifiera son nom sur toute la terre. Ce psaume fait ressortir cette vérité glorieuse. Verset 3. Au temps que j'aurai fixé, je jugerai avec droiture. Soyons assurés que le Seigneur reviendra. Il l'a promis. Dieu a fixé un temps pour le retour du Seigneur Jésus, et il sera au rendez-vous. Lorsque Jésus a marché sur la terre, il s'était volontairement humilié. C'est en tant qu'homme qu'il a dit. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu chapitre 24, verset 36. Oui, chers amis, le Seigneur reviendra au jour et à l'heure déterminée. Beaucoup de personnes qui s'intéressent à la prophétie ont prétendu connaître le jour et l'heure. Heureusement pour eux qu'on ne lapide plus ceux qui font des prophéties qui ne se réalisent pas. Je ne sais pas quand le Seigneur reviendra. Personne ne le sait. Dieu n'a pas voulu le révéler. Jésus a dit qu'il reviendrait comme un voleur, c'est-à-dire par surprise. Mais soyons assurés que le Seigneur reviendra. Versets 5 et 6. Je dis à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas, et aux méchants, n'élevez pas la tête. N'élevez pas si haut votre tête, ne parlez pas avec tant d'arrogance. Glorifions Dieu plutôt que nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens considèrent la parole de Dieu dépassée. On nous dit que nous sommes des dieux. Nous n'avons qu'à découvrir la puissance qui se trouve en nous. Nous n'avons pas besoin d'un Dieu pour diriger notre vie. Mais Dieu ne donne pas sa gloire à d'autres. Il nous dit de ne pas être arrogants, mais il nous invite à marcher humblement avec lui. Il désire notre cœur, et lorsque nous le lui donnons, il nous guide. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains chapitre 8, verset 28. Même les afflictions. Dieu nous demande de venir à lui afin de nous purifier du péché et de guider nos vies. À cela s'ajoute une gloire éternelle avec lui dans les cieux. Il nous invite à amasser un trésor dans les cieux, là où rien ne se corrompt. Il nous a aussi promis que nous ne manquerions pas du nécessaire si nous cherchions, premièrement, son royaume et sa justice. Plaçons nos priorités dans notre vie, chers amis. Versets 7 et 8. Car ce n'est ni de l'Orient, ni de l'Occident, ni du désert que vient l'élévation. Mais Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Le fait que nous soyons dans l'affliction n'enlève rien à la puissance de Dieu. Il demeure au contrôle de tout. Dieu a permis à Satan d'affliger Job, mais rappelez-vous qu'il lui a imposé une limite. Lorsque l'affliction de Job eut son effet bienfaiteur, Dieu n'a pas permis qu'elle se prolonge, et il lui a donné le double de ce qu'il possédait avant de tout perdre. Seul Dieu peut libérer son peuple. Il reviendra. Et chacun recevra selon ses œuvres. Oui, chers amis, seul le Seigneur décide qui est élevé et qui est abaissé. C'est ce que nous lisons dans l'Épître de Jacques, chapitre 4, à partir du verset 5. « Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. » Purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Oui, chers amis, c'est son œuvre. Il abaisse qui il veut abaisser et il élève qui il veut élever. Tu connais les conditions. À remplir, afin que tu sois un être élevé par le Seigneur, c'est de reconnaître ton état de péché, ton état d'aide du Seigneur Jésus-Christ. On ne peut s'en sortir que par son aide, cher ami. Oui, approche-toi de Dieu, et il s'approchera de toi. Nettoie tes mains. Demande-lui qu'il vienne te laver. Le sang de Jésus nous lave et purifie de tout péché, et par le feu même, nous pouvons recevoir de sa part les bienfaits, les bénédictions, et établir une relation intime et personnelle avec ce grand Dieu saint. Il te le permet. Il t'offre cette opportunité, cette possibilité. C'est une grâce qui t'est faite aujourd'hui. Dieu se manifeste, Dieu parle à travers son serviteur, à travers sa parole, à travers ce saint livre qu'est la Bible, et par le fait même, il attend une réponse. Oui, les psaumes sont des prières de louange et d'action de grâce. Ces psaumes sont merveilleux. J'espère qu'ils touchent ton cœur. C'est le but de ces écrits. Dieu intervient dans ta vie maintenant. Et il demande, il implore même, que tu réagisses à cette invitation de sa part, que tu te détournes du péché, que tu tournes vers lui et que tu l'implores en tant que Sauveur et Seigneur de ton existence. Accepte le Seigneur Jésus-Christ et par le fait même, tu pourras bénéficier de ses bons soins. Il est celui qui est prêt à intervenir maintenant dans ta vie. Il t'offre, il te présente l'être qu'il est et, par le fait même, de pouvoir bénéficier de sa toute-puissance. Oui, il y a des choses impossibles à réaliser, des choses impossibles à te débarrasser dans ta vie. Dieu te tend la main maintenant, car il est prêt à intervenir. Il ne te demande qu'à croire en lui. Crois au Seigneur Jésus, et il agira. Il accomplira pleinement les désirs de son Père, de sa volonté en ce qui a trait ta vie. Oh, que tu puisses accepter aujourd'hui même l'intervention divine pour ta vie. Il est prêt à porter la délivrance. Il est le grand libérateur. Il est celui qui se fait connaître à toi aujourd'hui comme le Sauveur. Sauveur de ton âme. Ton âme a besoin de ses soins. Elle a besoin de sa présence. Et toi aussi, tu pourras t'exclamer comme les psalmistes et de dire « Oui ». L'Éternel est ma joie, l'Éternel est mon bien. Chers amis, préparons-nous pour les prochaines émissions, pour la prochaine du mois en lisant les psaumes 76 à 78. Bonne lecture à tous. Au revoir.
Merci, Régent. Mes amis, il y a tellement de bonnes choses à retenir dans l'enseignement qu'on vient de recevoir que je ne suis pas certaine sur quelles je devrais m'attarder aujourd'hui. Par exemple, pourquoi Dieu permet-il que le méchant prospère alors que le croyant souffre? J'ai souvent entendu cette question. Et en plus, comme Régent l'a mentionné, les méchants qui prospèrent sont souvent arrogants et enflés d'orgueil. Ils se vantent de leur réussite et les attribuent à leur sagesse, à leur habileté. Ils recherchent la gloire, la richesse, la puissance, et ils n'hésitent pas à opprimer les pauvres. Ils se pensent supérieurs et tout-puissants, et j'en passe. Régent en a mentionné encore plus sur les méchants. Bien sûr, il n'a pas dit que tous les riches étaient des méchants, par exemple. Mais il a dit que plusieurs méchants deviennent riches. Mais enfin, il a mentionné le sort final des méchants. Et on a vu qu'on n'avait réellement pas à les envier. Quel bel exemple que celui du pauvre Lazare et de l'homme riche. On a vu que si un méchant n'était pas puni de son vivant, il le serait à sa mort. Dans cette histoire, l'homme riche s'est retrouvé dans les tourments. Il souffrait cruellement dans une flamme. Mais Lazare était consolé dans le sein d'Abraham. Il était trop tard pour que le méchant puisse changer de conduite et éviter ses tourments. Mon ami, qui que tu sois, tu es peut-être comme Lazare, un homme ou une femme pauvre qui subit la moquerie des méchants. Mais une chose que tu dois savoir, c'est que même en étant une bonne personne, tu es néanmoins un pécheur, une pécheresse perdue. Paul nous dit dans son épître aux Romains au chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mon ami, reconnais que tu as péché, que tu as besoin du pardon de Dieu, et place ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés, pour recevoir le don gratuit de la vie éternelle. Et ne compte pas sur le bien que tu as fait à ton prochain, ou sur tes souffrances pour te mériter une place au ciel. Ce n'est pas dans le plan de Dieu. Dieu veut que tous soient sauvés, et il a donné le même moyen à tous pour l'être. Et toi, mon ami, toi qui es plutôt comme l'homme riche qui était méchant, tu penses peut-être que tu as fait trop de mal dans ta vie et que jamais Dieu ne pourrait te pardonner tout ce mal. Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi aussi. Dieu veut te sauver. Dans la première épître de Paul à Timothée au deuxième chapitre, verset 3, il est écrit que Dieu, notre Sauveur, veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Eh bien, mon ami, Dieu te donne en ce moment la connaissance dont tu as besoin pour être sauvé. Il veut que tu parviennes à la connaissance de la vérité. Et justement, dans l'Évangile de Jean, au chapitre 14, verset 6, Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Mon ami, Dieu est en train de te dire comment faire pour aller au ciel pour l'éternité. Et tu sais qu'un jour, on devra tous quitter cette terre. Veux-tu choisir le ciel ou le lieu de tourment qu'on a mentionné plus tôt? Mon ami, viens à Jésus, aujourd'hui, en ce moment. Repens-toi. Change de direction à l'égard du péché. Demande à Dieu de te pardonner. Demande à Jésus de te donner ce beau cadeau qu'il a payé si cher en mourant sur la croix. Viens à Jésus maintenant. C'est aujourd'hui le jour du salut.
Caro, nous invitons les auditeurs à assister à un merveilleux déjeuner de l'espoir. Pourrais-tu nous expliquer qu'est-ce qu'un déjeuner de l'espoir?
C'est justement comme ce que tu viens de dire, Régent, c'est merveilleux. C'est merveilleux parce que, premièrement, les gens viennent prendre un bon déjeuner gratuitement, en compagnie de gens qui vont les aimer, les entourer, et ensuite, on entend un témoignage d'un vécu, le vécu d'une personne. Comme toi, Régent, la dernière fois que j'ai entendu ton témoignage, j'ai été épatée. J'ai trouvé ça extraordinaire de t'entendre raconter ce que Dieu avait fait dans ta vie, comment il t'avait transformé, et en même temps, ton sens de l'humour là, qui a transpercé les cœurs et qui a fait rire les gens, qui a fait du bien aux gens. Alors, c'est ça un merveilleux déjeuner de l'espoir. Ça vaut la peine de venir entendre ces témoignages. Et je vous le répète, c'est gratuit.
Nous vous invitons donc à venir participer à ces merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu à la grandeur du Québec. Comment faire pour savoir où auront lieu ces déjeuners?
Vous pouvez nous rejoindre par téléphone.
1-877-LESPOIR. 1-877-537-7647 ou via courriel.
À www.radioespoir.ca. Ou à notre adresse postale.
Radio Espoir, casier postal 34-143, Charlebourg, province de Québec, le G1G-6P2. Au revoir.
Bye bye. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.